Vous écoutez France Culture.
Réplique, l'amitié de Stefan Zweig et Joseph Roth, avec Pierre Desus et Philippe Lançon. Terrible XXe siècle. Rien, nous presque, alors, ne résistait à la politisation des âmes. En 1926, Emmanuel Berle prenait conscience de la puissance grandissante des mots en isme et des ruptures, des exclusives, des exclusions dont ils étaient inexorablement porteurs. Partout, écrit-il dans Sylvia, on marchait sur des amitiés mortes. Et Sartre, en 1952, commençait ainsi sa critique incendiaire de l'homme révolté d'Albert Camus. « Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Si vous la rompez aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle devait se rompre. Beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient. Mais sans doute était-ce encore trop, ajoutait-il en substance, car l'amitié aujourd'hui tend elle-même à devenir totalitaire. Et le théoricien de l'engagement n'y trouvait rien à redire. C'était, dit-il, dans l'ordre. Il y eut pourtant quelques exceptions miraculeuses à cet ordre de fer. Par exemple, l'amitié entre Joseph Roth et Stefan Zweig. Beaucoup de choses auraient pu séparer l'auteur de la marche de Radetzky de celui de la pitié dangereuse. Leur lien, cependant, survécut jusqu'au bout à toutes les épreuves. Nous avons aujourd'hui le témoignage écrit de cette amitié plus forte que les dissensions avec la parution aux éditions Rivage de la correspondance entre les deux hommes traduite et préfacée par Pierre Desus. C'est la belle recension de Philippe Lançon dans Libération qui m'a donné envie de lire, puis de faire lire leur échange. Mais avant d'en venir à la correspondance elle-même, j'aimerais en savoir plus sur les circonstances de la rencontre entre Stefan Zweig, né à Vienne, la capitale de ce qui était encore la monarchie habsbourgeoise, en 1881, et de Joseph Roth, né 13 ans plus tard dans la petite ville galicienne de Brody, c'est-à-dire aux confins de l'Empire. Pierre Desus.
Vous avez dit des mots très justes sur la turbulence de cette époque qui frappe jusqu'à la sphère intime. Et sur l'amitié dans ces turbulences, sur l'amitié entre deux écrivains de l'Autriche-Hongrie, si Zweig est né à Vienne, dans cette capitale, qui va devenir le centre du vide un peu plus tard, comme dira Hermann Broch. Roth est né aux confins, il était plus jeune. Je crois que beaucoup de choses les séparaient, même l'apparence physique était différente. Beaucoup de choses les séparaient, l'idéologie, la forme d'écriture. Mais au départ, ce qui les a rapprochés vient de Roth. C'est le désir de Roth de rencontrer un écrivain qui avait, comme lui, adopté la langue allemande sans réticence. Puisque Roth est né dans en Galicie, qui était un melting pot d'ethnies où l'on parlait surtout polonais. Et Roth a refusé de parler polonais. À l'université de Lemberg, il est resté que quelques mois.
Lemberg, devenu Lvov entre les deux guerres. Ma mère y est née. Et aujourd'hui, Lviv, une ville dont on parle parce qu'elle est d'un haut lieu de la contestation du pouvoir ukrainien et du désir d'Europe qui se manifeste dans la partie occidentale de l'Ukraine. Voilà, je dis ça. Lemberg est une ville immobile dont les noms ont changé, qui en quelque sorte a beaucoup voyagé.
Oui, c'est vrai.
Entre l'Empire, la Pologne et aujourd'hui l'Ukraine.
Oui. Et quittant cette ville qui s'appelait donc à l'époque Lemberg, il est allé à Vienne pour, justement, par désir de l'allemand, l'allemand qui n'était pas ressenti encore comme la langue des bourreaux, et qui ne sera jamais ressentie d'ailleurs par Roth comme la langue des bourreaux. Il dit « j'aime l'allemand », il le dira longtemps
c'était
après.
C'était la langue de Goethe pour lui.
C'était pour lui, oui, c'était ça. C'était la langue de... Il avait beau être juif, on y reviendra peut-être là-dessus, mais il dit « être allemand, c'est être héritier de Goethe, de Lessing, de Isaac, etc. Et » pas simplement de... C'était l'humain, et l'humain le désir de l'humain les rapprochait aussi.
Alors c'est lui qui a pris l'initiative de cette rencontre lorsqu'il est venu à Vienne. Et c'était en quelle année ?
Donc, il a sa première lettre. Donc, à Vienne, il a été à l'université où avait été Zweig quelques années plus tôt. C'est Roth qui a pris l'initiative, qui a pris sa plume et qui a écrit à Zweig. Zweig, c'était l'étoile de la littérature.
C'était déjà un écrivain célèbre.
Ah oui. Il était au sommet de sa gloire, en 27.
C'était en quelle année, donc, à 27. Peu près ? Et Joseph Roth avait déjà publié à l'époque ?
Oui, il avait publié Hôtel Savoie, par exemple. Donc, il avait... Et surtout, c'était un grand journaliste, Roth, à cette époque. Il a une œuvre journalistique qui montre que, en fait, le journalisme n'est pas la mort de l'écrivain, au contraire. Et
il écrit à Zweig, et Zweig, bien que au sommet de sa gloire, bien que très sollicité, lui répond.
Oui.
Et à ce moment-là, donc, il se voit.
Voilà, pas tout de suite. Ça dure longtemps. Il faut un an et demi de correspondance avant qu'il se voie. Alors, ce qui est dommage dans cette correspondance, M. Lançon le disait en coulisses tout à l'heure, c'est qu'il manque des lettres de Zweig.
Mmh. Oui, parce que Zweig était un homme assez rangé, donc oui. Il a gardé les lettres de Joseph Roth. Et Roth, qui vivait dans les hôtels, ouais. Qui était un véritable errant, un nomade, bien sûr, lui n'a pas conservé sa correspondance. Et effectivement, on a cette frustration d'avoir à deviner grand nombre des lettres de Zweig, alors qu'on a à peu près... Toutes celles de Joseph Roth. Donc il y a un déséquilibre dans cette correspondance.
Oui, dans les réponses.
Vous avez quelque chose à ajouter sur cette rencontre ?
Non, ce qui est intéressant, donc ils se rencontrent effectivement un an et demi plus tard. Et pour citer la lettre que Roth écrit à Zweig après, qui nous donnera immédiatement le ton de cette amitié, c'est-à-dire que les amitiés aussi intenses que celles-là, qui ont tant de dimensions, je dirais, presque des amitiés amoureuses. Et voilà la lettre, donc les quelques lignes que je voudrais citer, qui est le départ de leur histoire, finalement, physique. « C'était si bon de vous voir, et j'espère que l'inverse aussi était vrai. Vous étiez différent de l'idée que je me faisais de vous. Vous aviez une forme de sagesse, il insiste sur le mot sagesse, que je n'avais pas senti auparavant, quelque chose qui est aussi en rapport avec la beauté et la nature. » Je n'oublierai pas la pluie au cours de cette nuit. Vous êtes maintenant pour moi une partie de la nuit et de la pluie. » Donc c'est tout à fait saisissant de voir à quel point Roth, d'emblée, romantise une relation, l'idéalise en quelque sorte. Vous voyez, vous n'êtes pas, c'est vraiment des déclarations d'amoureux, vous n'êtes pas celui ou celle que je pensais. Et sur cette base, qui est au départ une base littéraire, hein, comme le disait Pierre Desus, va se développer une relation extrêmement intense que le contexte historique va... intensifier encore. C'est ça qui va donner ce fond de tableau noir sur lequel tout va se détacher, comme dans certains tableaux de Braque.
Oui, c'est très, très juste ce que vous dites. C'est en effet un coup de foudre amical, un coup de foudre réciproque et finalement assez énigmatique, même quand on regarde la photo de couverture du livre Pierre Desus, puisque Stefan Zweig, c'est ce grand bourgeois viennois. Habillé comme tel, Joseph Roth, c'est ce petit bonhomme, tête de bulldog. On sait qu'il est alcoolique, ça on en parlera, mais qui ne vient pas du tout du même milieu social. Et donc, il y a quelque chose comme je dirais pas une transgression des codes, mais cette amitié réussit à vaincre des oppositions dont on aurait pu croire, au fond, effectivement, qu'elles avaient quelque chose d'insurmontable. Pierre Desus.
C'est vrai que Roth vient de la bourgeoisie, mais de la toute petite bourgeoisie, alors que Zweig vient de la très grande bourgeoisie, comme Hofmannsthal, par exemple.
Roth, son père est parti lorsqu'il avait un an, il a vécu avec sa mère. Est-ce que c'était dans une situation de pauvreté relative ou...
Roth, qui aime raconter des histoires sur lui et sur les autres, hein, et sur lui a fait croire qu'il vivait vraiment dans la pauvreté, alors que bon, sa mère avait une servante, sa mère lui payait le lycée qui était payant à l'époque. Donc c'était pas du tout l'opulence, et surtout qu'il a fait venir sa mère avec lui à Vienne, il vivait dans un garni.
Oui.
Mais malgré tout, c'était pas vraiment la misère. Mais rien de comparable avec la grande bourgeoisie de Zweig. Et c'est vrai que c'est une forme de, si ce n'est une transgression, c'est au départ comme une mésalliance.
Oui, une mésalliance, voilà.
Pour reprendre l'idée qu'il y a une forme de relation amoureuse. Et je suis vraiment aussi étonné, parce qu'ils se disent, franchement, je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais ils se disent « je vous aime ».
Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'aime tant, malgré ces différences?
Alors, si on poursuit l'idée de la relation contrariée, enfin qui pourrait l'être objectivement, cette aventure de l'amitié, et c'est d'abord un merveilleux roman d'opposition. C'est-à-dire il y a le riche et le pauvre. Il y a ce qu'a dit Pierre Desus sur leur origine. Le riche et le pauvre en tant qu'écrivain, l'un est très très célèbre. Et vend énormément. C'est quand même l'auteur qui vend probablement le plus en Allemagne à ce moment-là, quasiment. En Allemagne et dans la zone germanophone. Et ça va poser un problème, bien entendu, entre eux. Joseph Roth, certes, est un journaliste tout à fait remarquable et célèbre. Mais ses livres ne se vendent pas du tout comme ceux de Zweig. C'est quelqu'un qui a connu plutôt l'insuccès. Par ailleurs, ils sont tous les deux juifs, mais leur attitude vis-à-vis de ce que signifie être juif est totalement différente. Je dirais que l'un est plutôt l'Ancien Testament, et c'est Roth, avec la colère de l'Ancien Testament et l'absence de compassion qui va avec cet ancien. En tout cas, il a une compassion, mais extrêmement dure. Hein, il ne pardonne pas aux ennemis, on va le voir avec les nazis, et très vite il comprend. Et je pense que c'est en partie lié à ça. Et je dirais que Zweig est un juif, c'est un Nouveau Testament extraordinairement civilisé, qui cherche tout d'abord à composer systématiquement, alors que Roth jamais. Vous voyez, il y a tout un tas d'oppositions. Par ailleurs, il y a quelque chose qui les rapproche et qui est très important littérairement, c'est que Roth a écrit le grand roman d'un monde perdu, La Marche de Radetzky, c'est-à-dire de la fin de l'Empire austro-hongrois. Et Zweig a écrit la grande, je sais pas comment appeler ça, autobiographie du monde perdu, qui est le monde d'hier. Et tous deux l'ont écrit très peu de temps avant leur mort. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, en fait deux témoins tout à fait extraordinaires. La rencontre donc n'est pas un hasard. Et pour finir sur la photo dont vous parliez, qui est dans la couverture du livre, quand on sait qu'elle est prise à Ostende, et que en fait c'est Zweig qui littéralement prend soin de Roth.
Et on le voit d'ailleurs.
Et en fait il l'amène là dans une cure de désintoxication qui, une fois de plus, ne fonctionnera pas puisque Roth va mourir de l'alcool. Cette photo déclenche quasiment les larmes parce qu'on sait que ces deux hommes vont mourir. Finalement, l'un d'un suicide lent par l'alcool, enfin lent et relativement rapide, et l'autre d'un suicide tout court du fait finalement de ce monde, de cette société dans laquelle ils sont. Et donc on voit deux vieux dinosaures qui sont deux des plus grands écrivains de leur époque et qui sont là encore vivants et qu'entretient finalement leur passion pour la littérature, leur génie et leur amitié.
Leur amitié et puis la sollicitude de Stefan Zweig pour Joseph Roth, dont d'ailleurs cette correspondance porte témoignage. Mais en écho à ce que vous venez de dire, d'abord sur l'Ancien Testament, je ne résiste pas au désir de vous lire cet extrait d'une lettre de Joseph Roth. « Je sais que vous n'aimez guère les murs de lamentation. » Il ne porte d'ailleurs pas bonheur. Toute amitié avec moi est funeste. Je suis moi-même un mur des lamentations, un amas de ruines. Vous ne savez pas à quel point il fait sombre en moi. Mon cher et honoré ami, vous avez la grâce du bonheur et de la vraie gaieté toute dorée. Vous avez le sens de la mesure, de ce qui est juste. Il y a en vous quelque chose de l'art de vivre goethéen. Et il dit, je ne mérite pas votre sympathie et elle vous nuit. Et puis autre chose quand même, parce que le riche et le pauvre, disiez-vous, Philippe Lançon, mais le plus réactionnaire des deux, au sens strict du mot, c'est Joseph Roth. Oui, notre époque a fait de la haine de la nostalgie une cause nationale et internationale, si je puis dire. Alors là, Joseph Roth, c'est la nostalgie incarnée. Le cinéma, pour lui, il le dit dans cette correspondance, c'est l'antéchrist, et il a une nostalgie que ne partage pas tout à fait Stefan Zweig pour la monarchie austro-hongroise. Il veut son rétablissement, il milite pour son rétablissement dans les années 30, dans les années de la montée des périls, Et puis, et ça c'est très intéressant, parce que je crois que Patrick Modiano, dans sa préface à des écrits de Joseph Roth sur, sur Berlin, le dit magnifiquement, c'est l'empereur François-Joseph qui demeura pour Roth une image paternelle, son père étant parti alors qu'il avait un an, et si les Guermantes ont fait rêver le très jeune Proust parce que leur nom évoquait pour lui des fées, des licornes et les châteaux de Geneviève de Brabant, on comprendra combien les noms des domaines de François-Joseph pouvaient enchanter l'imagination d'un enfant. Et à ce moment-là, Modiano nous fait la liste de tous les titres de François-Joseph. Et en effet, c'est extraordinaire. Empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodomorie et d'Illyrie, grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bucovine, grand prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et Gastala, de Teschen, Frioul, Raguse et Zara, comte princier de Habsbourg et Tyrol, de Kibourg, Goritz et Gradisca, prince de Trente et Brixen, margrave de Haute et Basse Lusace, comte de Hohenems, Feldrich, Brigance, Sonnenberg, seigneur de Trieste, de Cataro et de la Marche Vendée, grand voïvode de la voïvodie de Serbie, mais parmi tous ces titres, le plus ancien était celui de roi de Jérusalem. Et Modiano ajoute que, après sa mort, il ne demeura de lui que le souvenir d'un grand vieillard un peu gâteux, tel qu'il figurait dans les portraits officiels et dans la marche de Radetzky, où il a peur que le gazouillis des oiseaux de Schönbrunn lui fasse perdre le peu de mémoire qui lui reste. Et Joseph Roth, ajoute Modiano, éprouva pour lui une tendresse encore plus profonde à mesure que l'Europe basculait dans le cauchemar hitlérien. Ce vieil homme dont les favoris blancs laissaient croire que son visage était barbouillé de crème fouettée semblait à Roth la figure même de l'innocence. Le vieux, au moins, était resté pur de cette folie meurtrière qui gagnait le XXe siècle. Voilà, ça c'est Joseph Roth, c'est-à-dire une nostalgie, une mélancolie et une nostalgie inextinguible d'un monde disparu. Pierre Desvues.
Oui, c'est vrai que je comprends que pour un écrivain, cette suite de mots et de titres soit... Oui,
c'est un poème en soi.
C'est un enchantement. Il y a peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui l'ait attiré vers François-Joseph. Il y avait aussi, outre les noms, il y avait le monde. Et ce monde, François-Joseph, cette figure paternelle, c'est très juste, était aussi une figure paternelle pour les Juifs, c'est-à-dire que François-Joseph protégeait les 2 millions de Juifs qui étaient un garant de leur sécurité dans cet empire. Et on peut, à juste titre, être nostalgique de ça.
Et notamment en Galicie, parce qu'il n'était pas loin de la Russie, où les Juifs, au contraire, étaient maltraités, subissaient pogrom sur pogrom, et donc à quelques kilomètres de distance, la situation était complètement différente.
Ouais. Oui, il y a ça. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que d'un point de vue politique, il pensait, après l'avènement du nazisme, Roth pensait que le meilleur moyen de sauver cet ancien empire, c'était la monarchie, parce qu'il avait fait un calcul qui était politiquement peut-être faux, mais qui avait sa légitimité. Il se disait que l'Angleterre serait plus prête à intervenir, qui est une royauté, plus prête à intervenir pour sauver une autre monarchie qu'une république social-démocrate.
Peut-être aussi y avait-il, chez Roth, une haine éperdue de toute forme de nationalisme qui, précisément, justifiait cette image idéalisée de l'Empire austro-hongrois. Il a des mots dans cette correspondance sur le sionisme extraordinairement sévères et qui ne me paraissent pas d'ailleurs témoigner d'une lucidité exemplaire, puisqu'il ne voit pas de différence entre sionisme et nazisme. Enfin, c'est un autre problème. Mais je crois vraiment que c'était l'alternative à la barbarie nationaliste pour lui.
Oui, c'était ce que vous lisiez, la traîne de noms de titres de François-Joseph, c'est quand même vraiment le vitrail de Guermantes dans l'église de Combray. Et je dirais, c'est là qu'on va en venir, c'est que 33, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a toujours le temps perdu. c'est-à-dire ce qu'on disait, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, le grand chapeau de François-Joseph qui accueillait dans une espèce de torpeur, et aussi une torpeur administrative, l'Empire avec ses juifs, avec toutes ses nationalités. Mais il n'y a plus de possibilité du temps retrouvé, parce que la grande différence avec Proust là-dessus, c'est que 1933 va tout casser et va rendre même impossible cette possibilité de revoir les gens, même vieillis, comme vous savez, à la fin de quand ils sont tout à fait décatis. Il n'y a même plus ça, c'est-à-dire il y a une, et ça Roth le comprend tout de suite, une destruction absolument radicale de toutes les bases de ce qui a fait la civilisation et donc la mémoire de Roth, Zweig et de probablement de l'Empire austro-hongrois et plus généralement de la civilisation européenne.
Alors ça, c'est tout de même, arrêtons-nous à 33, parce que c'est très intéressant. Ici, on voit les choses de manière un peu superficielle, on se dit Joseph Roth, Stefan Zweig ont quand même en commun d'être juifs. Bon, chacun à sa manière, etc. Ce sont surtout de grands Européens. Mais enfin, ils sont juifs, donc ils sont les victimes désignées du nazisme. Ça devrait les rapprocher, créer en eux une solidarité absolue. Or, c'est en 1933 que la dissension entre l'un et l'autre est la plus ouverte. C'est là que Joseph Roth reproche violemment à Zweig de ne pas prendre parti, de tergiverser... Et que on se dit, la rupture est possible. La rupture est possible. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce qui apparaît aujourd'hui comme un paradoxe, Pierre Desus ?
Roth est quelqu'un d'un bloc. Il est d'une intransigeance exceptionnelle. Et d'ailleurs, il refuse toujours de mettre de l'eau dans son vin au nom de l'amitié, justement. Et donc, il rentre dans le lard pour exprimer les choses de façon familière, chaque fois qu'il le peut, contre Zweig. Et vis-à-vis de la montée du nazisme et de la prise de pouvoir par Hitler, Roth est l'un des rares Européens à être d'une telle lucidité. Parce que dès février, mi-février, donc je rappelle que Hitler est arrivé au pouvoir en janvier.
Et, le 30 janvier, si voilà, je me souviens.
Voilà. Et mi-février... Simplement mi-février, Joseph Roth écrit dans une brève lettre à Zweig « Vous aurez bien vu que nous allons au-devant de grandes catastrophes, mis à part les catastrophes privées, notre existence littéraire et matérielle est détruite, tout cela mène à une nouvelle guerre. Je donne plus cher de notre peau, on a réussi à laisser gouverner la barbarie, ne vous faites aucune illusion, c'est l'enfer qui gouverne. »
Et donc, à ce moment-là, à partir de là, l'amitié entre Zweig et Roth, c'est finalement... Zweig, vous savez, on dit souvent qu'on a une conscience sous forme de Jiminy Cricket sur l'épaule. Lui, ce qu'il a sur l'épaule, c'est Job. Et Job, c'est Roth qui va effectivement ne plus rien lui passer en lui disant « le mal règne maintenant ». Et donc, il ne s'agit plus de tergiverser. Mais le problème qu'il y a, et je pourrais citer un bref texte du Monde d'hier de Zweig, qui explique très très bien la position de Zweig. C'est-à-dire, Zweig comprend évidemment la nature des nazis et ce qui est en train de se passer. Mais d'une part, il vend énormément de livres en Allemagne, il ne veut pas perdre son public. Et quel écrivain ne le comprendrait pas ? C'est-à-dire, il lui faut un peu de temps pour saisir ce qui se passe. Et on va dire que, en quelque sorte, Roth le fouette. Hein, lui dit, mais non, il n'y a plus de compromis possible. Ne faites pas comme ses éditeurs. Il a des mots extrêmement durs contre les éditeurs, aussi bien les siens que ceux de Zweig, en disant, voilà, ces gens se compromettent avec un pouvoir absolument abominable qui est en train de détruire l'essence même de ce qui fait leur métier et le nôtre. Et ça, c'est vrai. Et alors, je voudrais juste dire ce petit passage qui vient à la fin du Monde d'hier de Zweig, où il dit, on peut difficilement se débarrasser en quelques semaines de 30 à 40 années de foi intime dans le monde, ancrée dans notre vision du droit. Nous croyions à l'existence d'une conscience morale allemande, européenne, universelle, et nous étions convaincus qu'il y avait un certain degré d'inhumanité qui s'éliminait une fois pour toutes devant l'humanité. Et Roth lui répond non, c'est le contraire, c'est l'humanité qui est en train de s'éliminer devant un certain degré, et plus qu'un certain degré, un changement radical dans l'essence même de la barbarie. Ça, il a aussi, c'est pas une gradation seulement, il y a eu d'abord les degrés, et puis finalement, c'est l'essence même de la chose qui change.
Mais pour aller plus loin encore, il faut dire que, dans un premier temps, Stefan Zweig a voulu faire, vis-à-vis du national-socialisme, un grand effort de compréhension. Et c'est une autre lettre, une autre polémique épistolaire, cette fois-ci entre Stefan Zweig et Klaus Mann. 1930, premier grand succès des nationaux socialistes en Allemagne, et article de Stefan Zweig qui s'intitule « Révolte contre la lenteur ». Il voit, Zweig, dans cet événement, l'expression d'une insurrection de la jeunesse, révolte qui n'est peut-être pas intelligente, mais au plus profond d'elle-même naturelle, et qu'il convient d'approuver tout à fait, une révolte contre la lenteur et l'irrésolution de la haute politique, le rythme d'une nouvelle génération se révolte contre celui du passé. Et c'est un... Justement, Klaus Mann, homme de cette nouvelle génération, qui répond à Stefan Zweig dans un texte intitulé « Jeunesse et radicalisme » où il dit « Non, vous déplorez la lenteur d'escargot de la politique européenne, nous la déplorons avec vous, mais, dit-il, je répudie devant vous ma propre génération » ou du moins cette partie de ma génération que vous, justement, vous excusez. La psychologie permet de tout comprendre, même les coups de matraque, mais cette psychologie, je ne veux pas la pratiquer, je ne veux pas comprendre ces gens-là, je les rejette. Peut-être pourrait-on dire, aujourd'hui mutadiste, la même chose, d'une certaine sociologie, mais ce n'est pas notre débat. Et en 1933, entre Klaus Mann et Stefan Zweig, nouveau conflit. Klaus Mann publie une revue, Le Rassemblement, dit Sammlung. Il dit, oui, c'est une revue littéraire, mais cette revue littéraire ne peut pas rester au-dessus de la mêlée. Nous avons une mission politique, et Stefan Zweig refuse de lui accorder un article en disant que, précisément, il ne veut pas se laisser politiser malgré lui. Et tout se passe comme s'il voulait expier son enthousiasme de 1914. Hein. Il a été un peu pour la guerre à un certain moment. Et là, il, à son tour, il veut être, autant qu'il le peut, au-dessus de la mêlée. Donc, pour réparer un aveuglement, il en commet un autre. Et jusqu'au point, bien sûr, où il sera obligé de se rendre à l'évidence, mais du temps aura passé, des tâtonnements auront eu lieu, et Joseph Roth aura été le job, effectivement, qui ne cessait de le presser de se manifester, de sortir de cette irrésolution, Pierre Desus.
Irrésolution qui tient... Comme vous l'avez bien dit, il y avait peut-être le besoin de se racheter, parce qu'à la différence de Roth, qui a été pacifiste dès le début, en 1914, ce qui n'était pas le cas, comme vous l'avez dit, de Zweig, de se racheter de cette erreur. Il l'a faite aussi par ses nouvelles, par ses récits. Mais il a commis une autre erreur, qui est une... Je pense que cette faute dans l'appréciation politique vient aussi avant, en deçà de toute analyse de la situation, de son caractère. Zweig est quelqu'un d'extrêmement poli. Zweig est un diplomate et un ambassadeur d'Erné, et il essaye d'arrondir tous les angles. Et à force, effectivement, d'arrondir les angles et de faire des sinusoïdes, il va finir par se perdre, et il exacerbe la colère et même la fureur de Roth, qui voit les choses effectivement comme elles sont.
C'est aussi paradoxalement ce qui permet à leur amitié de survivre, parce que quand Roth... il faut dire aussi très aiguisé par le vin blanc qu'il boit en grande quantité. Et l'alcool a probablement aussi un rôle dans le caractère de Roth, et dans, non pas dans son écriture, mais dans le jusqu'au boutisme moral qui là est justifié. Hein, à partir de 1933, il est quand même fondamentalement justifié, en tout cas sur l'essentiel. C'est la diplomatie, le caractère civil et pacifique de Zweig qui va précisément faire que, tandis que l'un ne passe rien à l'autre, l'autre, Zweig, lui pardonne toutes les lettres les plus violentes qu'il lui fait, les ruptures, les scènes. Quand à un moment donné, Toscanini, Zweig vient rendre visite, c'est tout à fait extraordinaire. Donc Zweig revient en France pour voir soi-disant Roth, et puis en fait ne le voit pas, donc néglige son ami pour aller voir quelqu'un de bien plus important qui est Toscanini, dont effectivement Zweig était aussi très proche. Et enfin, en tout cas, qu'il connaissait bien. Et alors, il y a une lettre de Roth tout à fait, enfin, plusieurs lettres tout à fait saisissantes, qui sont des lettres de jalousie amoureuse, là encore. Oui. Mais en même temps, où il lui dit, et c'est pas anecdotique, il lui dit, mais voyez, c'est la même chose, en fait. Vous êtes toujours dans la complaisance aux puissants, et vous oubliez, vous négligez l'essentiel, en l'occurrence, l'ami, le vieil ami, celui qui vous a toujours tout dit, politiquement, on aurait pu en parler littérairement, parce qu'il est dur aussi littérairement avec Zweig. Il lui passe rien. On aimerait peut-être avoir un éditeur comme ça, hein, quand on écrit. Et donc, voilà. Et Zweig, à chaque fois, revient. Et ça, son extraordinaire sens de l'amitié, de la diplomatie, et sa douceur, finalement, fait que cette amitié peut jouer en permanence. Elle aurait explosé, je pense, avec n'importe qui d'autre. Je ne sais pas ce qu'on pense.
Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant parce que Stefan Zweig, pour expliquer, justifier justement qu'il soit d'aller voir Toscanini, a cette phrase, apparemment très belle d'ailleurs, qui donne à réfléchir. « Je suis tellement pétri de ma propre faillibilité que je n'ai pas la force de contredire les autres. » Ah, donc Toscanini lui demande quelque chose, il n'y a pas la force de contredire. Et la réponse extraordinaire de Joseph Roth, parce que c'est quand même une réponse en effet de dépit affectueux, mais c'est aussi la réponse de l'Ancien Testament. « Vous êtes refermé sur vous-même comme une moule. Vous écoutez votre propre bruit que vous considérez comme la voix du monde, de la raison. » Et surtout cette phrase « Soyez moins pétri de votre faillibilité et essayez plutôt de la réduire. Tel est le commandement moral, mais vous êtes pour ainsi dire saturé de votre faillibilité. » Ça, je trouve que
c'est une parole, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, mais c'est une parole pleine de sagesse que nous devrions bien méditer aujourd'hui. Donc, parce que le développement, même abusif, et surtout la vulgarisation de la psychanalyse, nous a mis dans cette situation d'être pétris en permanence, de faire spectacle de la faillibilité. Et là, c'est toute la parole de Roth, oui, résonne comme un coup de tonnerre, alors dans un ciel, vous savez, un peu mou et gris, quoi. Enfin,
oui, c'est ce qui est magnifique. C'est que quand vous dites « je suis pétri de ma faillibilité », vous reconnaissez votre finitude, en apparence. Vous êtes humble, mais en réalité, non. C'est-à-dire que vous vous défaites ainsi de tout scrupule. Et c'est ça que montre merveilleusement, et vous avez raison de le mettre en rapport avec la psychanalyse, Philippe Janson. Pierre Desus, vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est une sacrée leçon de vie qu'il donne là. C'est contre la repentance, c'est contre la vanité aussi.
Contre la vanité.
Oui, qui est là-dedans. Et puis, vous parliez aussi de côté intransigeant de Roth vis-à-vis de Zweig, il le reprend à tous les niveaux. Il le reprend sur la montée du nazisme, il le reprend sur le judaïsme, ils sont à peu près plus ou moins d'accord parfois.
Roth
est des fois même...
Judaïsme, essayons de dire, ils sont juifs tous les deux, ils sont marqués comme juifs par l'antisémitisme hitlérien, mais il me semble que ni l'un ni l'autre ne veulent s'en tenir à cette définition d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas être que juifs. Et d'ailleurs, on a dit que Joseph Roth était devenu catholique.
Donc, c'est un grand mystère, hein, oui, qui perdure jusqu'à son enterrement à Thiers, où tout le monde est représenté.
Oui, tout le monde est là. Oui.
Tout le monde est là, le clergé catholique. Il n'y a pas de rabbin. Hein, pour dire le kaddish, et c'est ce qu'on
regrette. Est-ce que le kaddish a été dit ou non, quand même?
Il n'a pas été dit. Mais enfin, il y avait des représentants du monde juif, il y avait un représentant de la monarchie, enfin, tout le monde était là, il y avait ses anciennes femmes, malgré tout, il y avait un peu de monde, mais le mystère de sa conversion reste entier, on ne sait pas jusqu'à quel point il s'est converti.
Oui, il dit ceci, nos ancêtres sont autant Goethe, Lessing, Herder qu'Abraham, Isaac et Jacob. Du reste, nous ne sommes plus battus comme nos ancêtres par des chrétiens pieux, mais par des païens impies. Aujourd'hui, on ne s'en prend pas uniquement aux juifs, aujourd'hui on s'en prend à la civilisation européenne. Il me semble que là-dessus, ils étaient absolument d'accord l'un et l'autre.
Oui, par exemple, il y a une lettre tout à fait fascinante de Roth aussi en mars 33, où il dit il dit à Zweig que ça suffit comme ça, de cette retenue juive, cette civilisation juive, c'est plus le moment. C'est-à-dire que face aux bêtes qui est en face, qui vous détermine, comme il le dit d'ailleurs, car pour les vraies bêtes en face, on reste quand même un dangereux youpin. Ça, c'est la réalité de ce qui va désormais se vivre. Et donc, il s'agit plus de rentrer dans un être juif qui, justement, était celui de la vous voyez, la belle civilisation viennoise, la culture, enfin, toute cette espèce de raffinement. Et Roth dit ça, on ne peut plus être déterminé par ce rôle-là. Parce que là, maintenant, c'est coup pour coup. Ça, c'est vraiment très, très important. Et il lui dit ça, « Je crains qu'il y ait un moment où la retenue juive ne soit plus rien d'autre que la réaction du juif plein de tact face à l'impudence de celui qui en manque. » Oui, et d'un autre côté. Autre phrase merveilleuse qui, oui. qui retourne le. Vous voyez, parce que voilà, c'est. En fait, ce qui stigmatise à ce moment-là, c'est la faiblesse et la culpabilité que pourrait ressentir le juif, la faillibilité, comme on disait tout à l'heure, face à des gens qui ne méritent certainement pas qu'on fasse vis-à-vis d'eux le moindre examen de conscience. Il s'agit simplement de lutter contre eux.
De lutter contre eux, mais il ne se définit pas, même à ce moment-là, exclusivement comme juif, il me semble.
Ah non, non, pas du tout. Hein oui, non, il est austro-hongrois jusqu'au
voilà,
bout.
Voilà, il est austro-hongrois jusqu'au bout. Oui. Et alors, à propos, une toute petite anecdote que je tire du livre de Soma Morgenstern, Fuite et fin de Joseph Roth. C'était un ami écrivain lui-même, d'ailleurs, qui a bien connu Stefan Zweig, mais surtout un ami de Roth. Et alors, effectivement, il était très ombrageux, très jaloux en amitié, Joseph Roth, comme vous l'avez remarqué, Philippe Lançon, et il n'aimait pas Freud. Et il n'aimait pas que Stefan Zweig l'abandonne quand ils sont au café pour aller voir Freud. Et alors, ce qu'il n'aimait pas chez Freud, c'est ça qui est très intéressant, ce qu'il a détesté, c'est la théorie freudienne sur Moïse, égyptien. Et il a dit, ça m'a confirmé dans mon opinion de toujours sur le spiritisme, enfin ça c'est les propos rapportés par Morgenstern, si quelqu'un vient nous proposer une théorie selon laquelle le noyau de la Terre est constitué non pas de lave incandescente mais d'eau de Seltz, nous pouvons à la rigueur le laisser dire un moment, après tout si le centre de la Terre était plein d'eau, cette eau pourrait devenir gazeuse sous la pression, mais si l'on vient nous raconter que le noyau de la Terre est constitué de pattes de coin, ce n'est plus du tout la même chose. L'hypothèse de Freud, qui veut nous faire croire que Moïse était un Égyptien, n'est pas une théorie de l'eau de Seltz, c'est une théorie de la pâte de coing, et ce n'est même pas la sienne. Donc, il y a une espèce d'énervement, mais qui prend une certaine force historique, étant donné les événements qui ont entouré tout ça. Quoi. Enfin, Moïse est juif et qu'il le reste. Alors, simplement, il y a aussi un aspect très important dans cette correspondance, Pierre Desus, c'est l'aspect justement intime et cette manière qu'a Stefan Zweig de constamment veiller sur Joseph Roth. Parce que Joseph Roth le rappelle à l'ordre, il est comme ça son job, si vous voulez, mais en même temps, il ne cesse de lui demander des services que Stefan Zweig ne rechigne jamais à lui rendre. Il lui prête de l'argent, il le fait rencontrer des éditeurs, etc., etc. Et puis, il essaye de le chapitrer sur l'alcool, sans succès, mais avec vraiment quelque chose de très maternel dans cette amitié. Et je trouve une espèce de sainteté dans l'attitude de
oui.
Stefan Zweig.
Chacun à leur façon veulent se sauver l'un l'autre. Roth voudrait sauver Zweig de ses égarements politiques, son aveuglement politique. Et Zweig veut effectivement sauver Roth de l'alcool. Et il dit plusieurs fois à la fin de l'ouvrage, il y a des échanges épistolaires entre non pas Zweig et Roth, mais Zweig et d'autres personnes qui ont connu Roth. Et là, il se lâche. Il se met rarement en colère avec Roth, dans ses lettres directement à Roth. Alors que Roth ne rechigne pas à l'invectiver. Mais il dit à d'autres, notamment à sa femme, Friederike, il lui dit « J'en ai assez, on ne peut pas le sauver, je veux bien lui payer une cure de désintoxication de 4 semaines, mais il ne veut pas, ma condition c'est ça, soit il arrête de boire, soit... » Et malgré tout, Roth n'arrêtera jamais, malgré tout c'est vrai, il est toujours là, parce que Zweig, les deux d'ailleurs, Zweig est une immense générosité, pas uniquement pour Roth, pour beaucoup d'autres écrivains, il l'a toujours... chaperonné, comme vous dites, il a aidé à trouver des éditeurs américains, même faire jouer ses pièces. Enfin, il a tout essayé. Et Roth aussi était d'une extrême générosité. La seule différence, c'est qu'il y avait un grand bourgeois qui avait énormément d'argent parce que ses textes avaient énormément de succès. De l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était issu de la toute petite bourgeoisie, dont les textes avaient beaucoup moins de succès, qui avait beaucoup moins d'argent, parce qu'une grande partie de cet argent, il l'a donné à sa femme, qui était atteinte de schizophrénie et de démence, et qu'il n'a jamais laissé tomber, enfin, jusqu'à ce qu'elle soit internée, et que les parents, en 1935, les parents de cette Friederike Reichel, les deux hommes avaient une femme qui s'appelait Friederike, avec une différence de E. Mais il a donné beaucoup d'argent pour cette femme, qui était internée dans un hôpital, il s'en occupait. Il avait toujours besoin d'argent, et la générosité, Outre la différence des caractères, la générosité est une marque des deux hommes.
Philippe Lançon.
Oui, oui, bah sur l'alcool, par rapport à ce que vous venez de dire de la vie de Roth, il y a une lettre aussi où il dit très bien ceci, il dit qu'il ne peut pas passer son temps à transposer ses malheurs privés dans sa vie littéraire, c'est la mort, et croyez-moi, jamais encore le plaisir de l'alcool n'a été aussi peu apprécié par un alcoolique. Est-ce que les crises d'épilepsie sont appréciées par l'épileptique? Et c'est tout à fait... aussi sur ce plan, une correspondance intéressante, parce que Zweig essaie de le guérir de quelque chose par la psychologie et par la volonté, comme on voudra, mais c'est, enfin, comme un effet de la psychologie. Mais justement, Roth lui dit, mais non, c'est justement à l'intérieur même de l'être que se pose la question de l'alcool. Et l'alcool n'est pas un plaisir, c'est même pas un médicament, c'est une sorte d'accompagnement funèbre qui naît de son être même, et dont moi je pense, je ne sais pas ce qu'en pense Pierre Desus, mais qu'il explique en partie, ça serait long à définir, mais la virulence et l'absence radicale de complaisance de Roth. Je pense qu'il y a quelque chose dans son alcoolisme qui est fondamental dans ce qu'il est, dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il pense. Et donc il faudrait voir même d'un point de vue, et d'ailleurs Roth le fait, qui n'est pas moral. Certes, c'est mal de boire parce qu'il se détruit et puis il dit des horreurs aux autres ou il en écrit. Mais en même temps, c'est mal de boire, mais... c'est pas mal, parce que Roth boit et il écrit ce qu'il écrit, buvant ce qu'il boit.
Oui.
C'est...
Il le dit d'ailleurs un moment à Zweig, il dit mes problèmes sont pas dus à l'alcool, pas du tout. C'est que je bois parce que les problèmes sont antérieurs à l'alcool, donc pour essayer de les surmonter. Et Valentin Luchère, qui était une amie de Zweig, dit à propos de Roth, après sa mort, il y avait une faille en lui. Il a essayé de dépasser cette faille par l'alcool. Il a sombré. Mais c'était un homme qui, au départ, portait une brisure.
Oui, alors en même temps, pour venir au secours de Stefan Zweig, il ne se contente pas de prêcher de l'extérieur à Joseph Roth en lui disant qu'il doit, pour son bien, adopter une attitude meilleure. Il essaye de prêcher par l'exemple, parce qu'il est lui-même un fumeur invétéré. Et il lui dit, par exemple, ne vous lancez pas des sophismes disant que le schnaps rend noble, sage et productif, il avilit. Comme vous voulez vivre, il faut que vous tendiez vos muscles. J'ai eu 8 jours absolument terribles après avoir arrêté de fumer, alors que je fumais 12 gros cigares par jour, ce qui est quand même énorme. Et aujourd'hui, la pression s'estompe et je me sens comme après un lavement, léger et délivré. Depuis mon sevrage, je sens que j'ai le droit d'exiger de vous une abstinence ou du moins une réduction de votre dose. Et surtout, terminer votre roman pour que vous puissiez vous reposer. Un peu plus loin, dans une autre lettre, je suis très fier de voir que moi, qui fumais comme un pompier, un vrai Joseph Roth, transposé de l'alcool à la nicotine, je n'ai pas du tout touché au tabac depuis 15 jours. Donc voilà, cet héroïsme vous est possible puisque moi-même je l'ai fait. Hein, c'est ça qu'essaye de dire Stefan Zweig, en vain, mais c'est vraiment l'amitié qui parle.
Les vases communicants ont des limites. On pourrait répondre simplement parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et donc, lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Donc, il n'y a pas de... Mais effectivement, c'est très, très émouvant la manière dont Zweig essaie de le sortir à la fois de l'alcool, mais au-delà de ça, finalement, de ses pulsions suicidaires. Oui. Et alors, évidemment, quand on connaît la fin... Des deux. Ça rend la chose encore plus troublante et émouvante. Il y a vraiment celui qui prend soin de l'autre et lui-même finalement pas si fringant,
oui, c'est le mot.
Et puis il y a tellement de choses qui les séparent, qu'on a évoquées au début, et maintenant on parle du caractère ou le manque d'autodiscipline de Roth, alors que Zweig fait preuve d'une grande autodiscipline qui rappelle presque Thomas Mann, qui est quelque chose de très... très rigoureux, je travaille de telle heure à telle heure, je suis capable de me maîtriser, etc. Il y a quelque chose, malgré toutes ces différences, il y a quelque chose de souterrain qui relie ces deux hommes et qui est véritablement touchant. Oui.
En même temps, à un moment donné, donc, pour revenir à leur dissension d'ordre politique, Joseph Roth dit à Stefan Zweig, soit vous rompez avec le Troisième Reich, soit vous rompez avec moi. On ne peut pas dire qu'il ait eu vraiment de complaisance avec le Troisième Reich, mais bon, il avait du mal à exprimer son dégoût. Et en même temps, il y a un livre, je crois, que Joseph Roth a beaucoup apprécié, qui n'est pas tant le livre sur Erasme que celui qui est venu après, l'essai sur Sébastien Castillon, où en effet, Stefan Zweig donc, raconte l'histoire de cet homme qui s'était élevé contre Calvin et la justice terrible exercée à Genève, notamment contre Michel Servet. Et cette phrase que Stefan Zweig a contribué à faire connaître dans l'œuvre de Sébastien Castillon, et enfin qui peut résumer toute la révolte qu'on peut avoir devant l'idéologie, au sens que Hannah Arendt a donné à ce terme. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Et je crois d'ailleurs que tous les opposants réels au totalitarisme ont en quelque sorte débouché sur une défense de la tautologie. Un arbre est un arbre, un homme est un homme, tuer un homme. Donc il y a un moment quand même où Stefan Zweig a dissipé toutes les équivoques, tous les malentendus, et peut-être est-ce aussi dans ce livre sur Castillon.
Oui, c'est vrai qu'il rappelle cette phrase aussi dans la correspondance. C'est tout simplement, vous dites le retour à la tautologie, c'est très juste. Et au-delà de l'idéologie, pour reprendre tous ces mots, c'est le retour tout simplement à l'humain.
Et au réel, et à l'humain.
Oui, dans un moment où effectivement ça... Mais alors, pour reprendre, parce que c'est aussi très intéressant, les remarques que Roth... fait à Zweig sur son style. Ça, peut-être Pierre Desus pourrait nous en parler. Là, on voit aussi, j'allais dire, la non-complaisance se décline aussi littérairement. C'est-à-dire qu'il lui... À la fois, il en reconnaît, parce que quand même, au fondement de cette amitié, il faut toujours le rappeler, il y a l'admiration réciproque pour leurs œuvres. Et ça, c'est quand même la base. Hein. C'est là-dessus que c'est parti et c'est là-dessus que ça reste. Mais en même temps, là non plus, Roth ne peut pas s'empêcher. Alors, il y a une ou deux lettres extrêmement, enfin, que je trouve extrêmement drôles où, vous savez, il commence par lui dire votre livre, là, votre nouvelle, c'est formidable. Mais alors là, quand même, vous avez des impropriétés de langage. Et puis, alors vraiment, les points-virgules, vous ne les utilisez pas. Et puis, alors là, vraiment, vous partez vraiment dans des développements qu'à mon avis, vous auriez pu couper. Et quand on arrive au bout, on se dit mais finalement, est-ce qu'il a vraiment aimé cette nouvelle ? En même temps, il l'a aimé, mais jusque-là, il faut qu'il cherche toujours à redresser grammaticalement.
Même grammaticalement.
Vous voyez, je pensais l'autre jour, j'avais relu cette phrase de Valérie, la syntaxe est une faculté de l'âme. Et alors, véritablement, on est là-dedans. C'est-à-dire, vous voyez, et ça, du coup, ça se décline après. L'âme se décline, évidemment, politiquement, culturellement, religieusement, dans leur rapport aux amis. Vous avez trop d'amis, lui dit Roth. Et effectivement, donc. Revient à ce qui est quand même l'essentiel d'un écrivain, c'est-à-dire la phrase. Et ça part de là. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre Desus qui a traduit.
Oui, pour avoir traduit Zweig, pas tout seul, mais avec toute une équipe pour bouquins, oui. Ce qui nous tous dans cette équipe nous a frappé, c'est le caractère luxuriant, redondant de Zweig. Et Roth ne le rate pas. Il dit à un moment, vous dites qu'il y a des passages assez drôles, c'est vrai. Il dit à un moment, est-ce qu'une locomotive peut se cabrer, en disant, vous allez un peu trop loin, vous en faites trop. C'est vrai, il en fait trop, de Zweig. Oui, bien sûr, il en fait trop.
C'est étonnant parce que c'est l'alcoolique, c'est l'homme de l'ivresse qui incarne face à Zweig la rigueur.
Exactement.
Donc ça, c'est tout à fait... On ne s'attend pas à ce renversement des rôles. Et quelles sont les œuvres de Stefan Zweig que Joseph Roth admirait particulièrement? Est-ce qu'on sait ça d'après leur correspondance, Pierre Desus?
Chaque fois, il était admiratif. Il n'y a pas une œuvre où il ait dit non. C'est vrai qu'il faisait des petites corrections, comme ça, un peu à la Karl Kraus, qui lui aussi était le gendarme de la syntaxe, même de la ponctuation. Mais chaque fois, en dépit de ses critiques, il était bienveillant. Mmh. Et je pense qu'il était reconnaissant aussi que Zweig lui demande son avis.
Et qu'est-ce que Zweig aimait chez Roth, par exemple? Est-ce qu'on sait ça?
Je pense qu'il a, enfin, je parle sous le contrôle de Pierre Desus, mais qu'il a tout de suite compris que c'était un chef-d'œuvre. Et je ne sais plus d'ailleurs qui a écrit à l'époque que finalement Roth avait écrit le livre que Zweig aurait voulu écrire sur le roman. Mais Zweig, comme je le disais au début, écrira plus tard sous forme non romanesque l'équivalent sur ce monde perdu.
Mais il y a un peu ce monde-là aussi dans La Pitié dangereuse, quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Qui est aussi postérieur, je crois, que Joseph Roth n'a pas lu aussi. Est-ce que Joseph Roth a pu connaître La Pitié dangereuse?
Je ne pourrais pas vous dire quand c'est La Pitié dangereuse.
Il me semble que c'est juste fin des années 30, non? Je ne sais pas.
À mon avis, ce serait avant ce serait quand même avant 38.
Ouais. Avant 38. Est-ce que, justement, Stefan Zweig a pu penser à un moment donné que... Lui qui était très modeste malgré tout, hein, qui s'inclinait devant un certain nombre d'écrivains, Hoffmannsthal notamment, etc. Rilke. Est-ce qu'il a pu penser que Joseph Roth était un plus grand écrivain que lui? Ou est-ce qu'il y avait entre eux un véritable sentiment d'égalité, Pierre Desus?
Il a reconnu, il a dit après la mort de Roth, il a dit c'est quelqu'un de génial. Et il n'a pas lésiné en disant... laissant sous-entendre que lui était quand même plus génial. Non, pas du tout. Et je pense qu'il y avait, vraiment... l'amitié était vraiment profonde au point
et admirative.
Et admirative au point d'éliminer la jalousie littéraire, du moins.
Oui. Et il n'y avait pas de jalousie littéraire.
Non, aucune. Et donc, c'est justement ce qui permet aux choses de se dire. Donc, dans les deux sens. Il y a des lettres de Zweig, pas à Roth, mais par ailleurs, où on sent qu'il trouve que parfois Roth a raté son livre, mais l'a raté comme le rate un grand écrivain.
Oui,
c'est-à-dire,
oui.
L'a quand même réussi. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, oui, il est. Alors, parfois, il y repère, tant je me souviens, il y a des lettres où il parle de ça ailleurs, le trop d'alcool, le fait qu'il n'a pas pu travailler comme il voulait, parce que le problème de Roth aussi, c'est qu'il devait travailler comme journaliste. Mais effectivement, comme le disait Pierre Desus au départ, je suis d'accord avec lui, c'est un écrivain journaliste, c'est-à-dire que c'est une des personnes qui nous fait rêver de ce que pourrait être le journalisme s'il transgressait un peu plus les formes ordinaires. Pour aller vers véritablement des visions. Enfin, quand il décrit des scènes de rue dans Vienne ou Berlin, c'est tout à fait saisissant. Et donc, il se plaignait de cette espèce d'esclavage. Mais en même temps, ça a fait de lui aussi l'écrivain qu'il est.
Écoutez, merci beaucoup Philippe Lançon. Merci Pierre Desus pour cette belle conversation autour de la correspondance de Stefan Zweig et Joseph Roth, qui est publiée aux éditions Rivage et que vous avez traduite et préfacée, Pierre Desus. Je signale, outre toutes les œuvres de l'un et de l'autre, la parution du dernier numéro de la revue Approche de Guy Samama, qui est consacrée à Stefan Zweig. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La forme animale » et mes invités seront Jean-Christophe Bailly et Jacques De Witt. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Célia Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.